Seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 7, jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire jusqu'au verset 18. Seconde lettre que Paul écrit à Corinthe, même si on peut penser qu'il y en a une entre-temps. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est aussi pourquoi nous parlons. Sachons que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternels. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On sait que la première lettre que Paul écrit aux Corinthiens, c'est une lettre d'organisation, puisque dans l'église de Corinthe, il y avait moult problèmes, et les Corinthiens avaient posé des questions à Paul au sujet des viandes sacrifiées aux idoles, au sujet des dons spirituels notamment. Et Paul va leur répondre. La seconde lettre qu'il adresse aux Corinthiens est quelque peu différente, puisque l'église de Corinthe est aux prises avec des faux docteurs et qui disent de l'apôtre Paul, oh, il est tout petit, lorsqu'il écrit, il est dur, mais lorsqu'il est devant nous, il ne dit pas grand-chose, il est tout timide. Donc l'apôtre Paul est dans cette seconde lettre, en fait, en réalité, eh bien, défend son ministère. Et il va le défendre d'une manière assez particulière, puisque au verset 5, il va dire la chose suivante. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. On peut déduire de tous les écrits de cette seconde aux Corinthiens que les faux docteurs qu'il y avait, eh bien, se prêchaient eux-mêmes. C'est-à-dire, eh bien, oubliaient la bonne nouvelle, oubliaient d'annoncer les vérités fondamentales et se mettaient en exergue et non pas la personne de Jésus. On peut également déduire que, au travers de cette formule que j'aime beaucoup, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Donc, Paul se pose en serviteur à contrario, eh bien, de tous ces faux enseignants qui semaient le désordre dans l'église de Corinthe. Et en cela, il dira ensuite, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et c'est sur ce simple verset que j'aimerais que l'on réfléchisse. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Si l'apôtre Paul peut le dire pour lui, eh bien, je pense que nous, tous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes nés de nouveau, nous pouvons également l'affirmer pour nous. Nous sommes des vases de terre, premièrement, mais nous sommes des vases de terre qui ne sont pas vides. Nous avons un grand trésor en nous. C'est vrai ou quoi?
Amen.
J'ai cru que j'étais le seul. Hein? Non, nous avons un grand trésor en nous. Nous ne sommes pas simplement des vases d'une grande fragilité, mais nous sommes de ceux et de celles qui sommes le temple du Saint-Esprit, qui sommes habités par la présence de notre Dieu. Et de ce contraste, et ce sera le troisième temps de notre réflexion, nous verrons que c'est dans ce contraste-là que véritablement la grâce de Dieu agit. Des vases de terre dans lesquels un grand trésor est posé, ce qui est paradoxal, mais au travers de cela, nous sommes des meilleurs témoignages qui soient et les choix de Dieu. Un vase de terre, des vases de terre. Ça vous fait penser à quoi ça? Des vases de terre. Premièrement, la terre nous fait penser à une forme quelque chose qui n'a pas une grande valeur. Comparé au vase en or, au vase que l'on pouvait trouver du temps de Jésus, des vases de terre, ça n'a pas une grande valeur. Et l'apôtre Paul écrira aux Philippiens qu'il se considérait lui-même comme une balayure. Et je ne sais pas si on raisonne de la même manière, mais me dit que parfois, eh bien, aux yeux de ce monde, les chrétiens, comme on dit dans le Sud, c'est un peu des fadas. C'est un peu des fadas. Hein? Quoi? Tu crois en Dieu? Vous avez, tu crois dans quelque chose que tu ne vois pas? Mais c'est pas possible. Hein? Et quelque part, on est un petit peu marginalisé, on est un petit peu mis à l'écart, mis de côté. Alors, parce que, et on nous enlève une certaine valeur. Dans les premières églises, on voit que, notamment dans l'église de Corinthe, que ceux et celles qui les composaient étaient des gens, étaient des petites gens. C'est des gens qui n'avaient pas forcément une grande éducation, un grand statut social, pour la plupart. Mais je crois qu'aux yeux de Dieu, et ça il faut bien que l'on se grave ça dans notre cœur, aux yeux de Dieu, chaque homme et chaque femme a du prix. Et un tel prix, une telle importance, que nous avons été rachetés, eh bien, par le sang de Jésus. Et qui pourrait racheter une goutte du sang de la gloire de Dieu? Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Vous savez, les hommes peuvent nous mettre de côté. On peut se sentir mal aimé. C'est un petit dernier qui vous parle. J'ai subi ce syndrome. Il n'en reste pas moins qu'aux yeux de Dieu, nous avons toujours de la valeur. Toujours de la valeur. Si le monde tente à nous dégrader, tente à nous faire penser que finalement nous ne sommes rien, chaque homme, chaque femme, aux yeux de Dieu, est important. Et le sacrifice de Jésus n'est pas un sacrifice à 50% pour certains et à 100% pour d'autres. Mais le sacrifice de Jésus est le même pour chaque homme et chaque femme. Nous avons tous de la valeur pour Dieu, quelles que soient nos vies, quel que soit ce que nous soyons, peu importe. Nous ne sommes des vases de terre. Mais dans ces vases de terre, eh bien, Dieu a mis quelque chose d'une grande valeur. Imaginez une boîte dans laquelle il y ait quelques louis d'or. Elle n'a pas besoin d'être grande, elle n'a pas besoin d'être belle. Qu'est-ce qui lui donne sa valeur? C'est ce qu'elle contient. C'est ce qu'elle contient. Nous-mêmes, nous n'avons peut-être pas grande valeur. Nous disons que nous n'avons pas grande valeur. Mais par ce qui est à l'intérieur de nos vies. Alors, eh bien, les choses peuvent changer. Deuxième chose, c'est que cette notion de terre nous fait penser à une forme de fragilité. Je me souviens, quand j'étais enfant, ma mère avait des santons en argile. Vous savez qu'elle achetait ce truc, hein, qu'elle les collectionnait presque. Chaque fois qu'elle allait quelque part, il fallait qu'elle ramène un santon. Et puis, j'étais gamin, et un jour, j'en ai fait tomber un, hein, au pauvre. J'ai découvert que l'argile, hein, ça se cassait. J'entends encore me râler dessus. Ça m'a traumatisé. Fragile. Et l'apôtre Paul va bien le développer, le fait que nous sommes des vases de terre fragiles. Hein, premièrement, au chapitre 4, au verset 16, il va dire « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Nous sommes fragiles dans notre corps. On l'expérimente un peu plus tous les jours, hein. Notre corps se dégrade avec l'âge, ça ne s'arrangera pas. Mais gloire à Dieu, notre être intérieur se renouvelle. Et c'est à cela que nous devons veiller. C'est ça qui doit être, eh bien, notre constante, se dire, oui, je suis fragile, c'est vrai. Je suis fragile de l'extérieur. Je suis peut-être fragile dans mon corps, fragile dans mon psychisme, fragile dans ma tête. Mais une chose est sûre, c'est que je veux que ce qu'il y a à l'intérieur, ce que le Saint-Esprit a semé à l'intérieur, puisse grandir, puisse s'étoffer et puisse prendre de l'ampleur. J'aime beaucoup cette anecdote, je dois déjà vous l'avoir racontée, mais un jour c'est un pasteur assez ancien qui rencontre un de ses collègues qui n'est pas plus jeune. Et puis le premier, eh bien, va dire au second, « Alors comment vas-tu ? » Et le second va lui répondre, « Oh, tu sais, l'habitation se décrépit, mais le locataire va bien. » Je trouve que c'est une belle image. Je trouve que c'est une belle image. D'un côté, on a l'habitation, le temple, qui peut parfois se décrépir. Besoin d'un petit ravalement de temps en temps, etc. Mais ce qui est important, c'est que le locataire aille bien. Et que ce qu'il y a à l'intérieur devienne chaque jour nouveau. C'est la version parole vivante qui est traduite ainsi. Devienne chaque jour nouveau. Qu'on veille, qu'on fasse en sorte que l'huile qui est à l'intérieur de nos vies, eh bien, ne soit pas gangréné, ne soit pas sali par les mouches, ne soit pas sali par les mouches, par les choses qui peuvent tomber, mais que véritablement nous puissions rendre toutes choses nouvelles. L'apôtre Paul va expliquer que nous sommes également fragiles dans notre foi, dans les épreuves que l'on peut traverser. Au verset 17, hein, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Paul va dire, oui, nous sommes fragiles, et nous pouvons être fragiles de par les afflictions, de par les épreuves que nous traversons. Mais que va-t-il rajouter derrière? Et il va dire, mais il y a un compteur qui est là-haut. Et chaque fois que nous tenons fidèlement dans l'épreuve, dans la difficulté, eh bien, ça produit un poids de gloire dans les cieux et dans l'éternité. On ne le sait pas exactement. On ne connaît pas le rapport, on ne connaît pas le coefficient multiplicateur. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque nous tenons bon, lorsque nous tenons fermement, malgré les coups, malgré les difficultés de la vie, malgré les larmes, malgré les souffrances, eh bien, ce que nous savons, ce que nous avons dans notre cœur, ce que nous avons pour assurance, c'est que là-haut, il y a quelque chose qui se passe, que nous réjouissons le cœur de notre Dieu, et que toutes ces afflictions, que Paul qualifie de légères, et quand on connaît le ministère de l'apôtre Paul, est-ce que vous pensez qu'une lapidation, c'est quelque chose, c'est une légère affliction? Un naufrage serait-il une légère affliction? Un jeûne forcé serait-il une légère affliction? Pourtant, il écrira aux Romains que toutes ces choses-là, eh bien, lorsqu'il est pesé, cela n'avait rien à voir avec, eh bien, la gloire qui était devant lui. Ayons bien cette vision dans notre cœur. Oui, nous sommes fragiles, fragiles dans notre corps. Oui, nous sommes fragiles dans notre foi, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Oui, nous sommes fragiles devant les épreuves de notre vie. Et nous devons rester vigilants. Mais ce que nous savons, c'est que notre Seigneur, eh bien, il nous tient debout. Et puis, nous pouvons être fragiles dans le combat spirituel et dans les difficultés de cette vie. Au chapitre 4, au verset 8, toujours, l'apôtre écrira ces paroles que j'aime beaucoup. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattu, mais non perdu. On voit les premiers mots qui sont forts, et puis les seconds mots qui sont encore plus forts, et on voit la main de Dieu qui est posée entre. Les limites qui sont posées. Même si les apôtres de leur temps, tout comme nous aujourd'hui peut-être, nous aurions vocation à être écrasés, eh bien nous ne le sommes pas, mais nous sommes simplement pressés. Et quand on est prenez un fruit, lorsque vous le pressez, tout simplement, hein, sans aller jusqu'au bout, il y a le jus qui sort, mais la chair, elle reste. Par contre, quand vous l'écrasez, il ne reste plus rien. Mais parfois, nous pourrons être un petit peu pressés, certes. Mais nous ne serons jamais écrasés. Le Seigneur veille sur nous. Nous pouvons être désemparés. Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais non pas désespérés. C'est fichu. La cabane est sur le chien, je ne m'en remettrai jamais. Non, vous vous saisissez la nuance. Nous pouvons connaître des moments où on ne sait pas comment faire. Mais pour autant, eh bien notre foi reste intacte et nous restons debout. Et étudiez tous ces mots, étudiez ce simple petit verset, et cela fait du bien à notre cœur. C'est normal que dans notre vie chrétienne, nous puissions connaître des moments où nous sommes pressés, nous puissions connaître des moments où nous sommes parfois désemparés, où nous puissions connaître des moments où nous sommes persécutés, mais là encore, nous savons que nous ne sommes pas abandonnés. Et nous savons que, avec l'épreuve, eh bien, notre Dieu, eh bien, pourvoit et pose des limites à nos difficultés. Ce que je crois de tout mon cœur, c'est que ce vase de terre, parfois, il peut être brisé, il peut être cassé. On a l'image du potier dans le livre de Jérémie au chapitre 18. Vous vous souvenez des paroles de la parole de l'Éternel est adressée au prophète et puis il va descendre dans la maison du potier. Et là le prophète va voir le potier en train de faire un vase et puis alors que le vase est sur le tour, tout d'un coup la conception ne plaît pas et le potier brise le vase qu'il est en train de faire et recommence. Je vais être très direct. Et là, tout le monde commence à trembler. conviction. Dieu est plus têtu que nous. Dieu a été plus têtu que son peuple. L'image du vase, c'est Israël qui va être brisé, envoyé en déportation. Puis, avec le reste de Juda, le Seigneur va faire renaître quelque chose. Je crois que ce matin, il y a une pensée de Dieu. Dieu est plus têtu que toi. Cesse d'être un chêne qui résiste. Sois ce roseau. Accepte la volonté de Dieu. Accepte ces choses-là. Accepte de courber ta volonté devant celle du Seigneur. Parce que par amour, sinon, le Seigneur brisera le vase. Certes, il le reconstruira, mais il le brisera. Non pas pour humilier, mais pour construire et pour faire aboutir le projet de paix qu'il a pour ta vie. Nous sommes des vases de terre, mais il y a un grand trésor en nous. Deuxième point. C'est bien de le savoir. C'est encore mieux de le vivre. Dans le livre du Cantique des Cantiques et dans le livre du prophète Ésaïe, on trouve une habitation quelque peu étrange qui s'appelait les tentes de Kédar. Tentes de Kédar, c'est des tentes de nomades. Et elles avaient comme spécificité d'être toutes noires. Lorsque vous arriviez de l'extérieur et que vous les voyez, c'était des lieux qui n'étaient pas forcément très très attractifs. Mais lorsque vous y pénétriez, eh bien on trouvait moult richesses. Et je me dis que ces habitations, ces tentes, nous font penser un petit peu au vase de terre dans lequel, eh bien, est que nous sommes et dans lequel est déposé ce grand trésor. Vous savez, première chose, c'est que parfois la chrétienté, la foi, peut faire penser à ces tentes de Kédar. C'est pas très moderne, c'est pas très actuel, c'est pas très à la mode de venir prier. Vous imaginez, les jeunes, vous arrivez le lundi matin à l'école, au lycée. T'as fait quoi samedi soir? Oh, je suis allé prier. Waouh! Ça fait pas in. C'est pas très attractif. Tu fais quoi, toi, dimanche matin? Téléfoot? Non, j'occulte. C'est pas très attractif. Et parfois, on peut vivre avec des conceptions en se disant que la vie chrétienne, la foi, eh bien, c'est pas très attractif vu de l'extérieur. Lorsqu'on ne la vit pas, lorsqu'on n'est pas participant, lorsqu'on n'est pas acteur, oui, eh bien, on ne voit que la face noire. Oui, on ne voit que le côté un peu négatif et le côté qui n'est pas forcément beau. L'histoire de l'Église n'est pas belle vue de l'extérieur. Une guerre de religion au nom de Dieu. Le sang qui a été versé, vu de l'extérieur, c'est loin d'être extraordinaire. Mais lorsque l'on voit la main de Dieu qui a guidé les choses, de suite, quand on pénètre dans l'histoire, de suite on voit des choses et des hommes et des femmes tout à fait extraordinaires. Je crois que, parfois, on peut considérer l'Église, considérer la foi. Je n'utilise pas le terme de religion, à dessein. Comme quelque chose qui n'est pas attractif, qui est noir de l'extérieur, qui est un vase de terre. Mais quand on va à l'intérieur, alors on y découvre toutes les beautés et toutes les richesses qu'il peut y avoir. Mon frère, ma soeur, mon ami, je t'engage à ne pas rester à l'extérieur, mais à oser pénétrer plus loin, à oser la prière, à oser la lecture de la Bible, à oser le vivre tous les jours, à oser le vivre pleinement et le vivre à fond. De cette manière, eh bien, tu pénétreras à l'intérieur des tentes et tu découvriras de véritables richesses pour ta vie. Deuxième chose, c'est que les apparences ne sont pas une fin, mais que les apparences sont les conséquences d'un changement de fond. Ça, vous avez tout compris ? Ce qui doit être notre priorité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est dans ce contexte que l'apôtre Pierre, dans sa première épître, eh bien, dira que les femmes doivent se parer d'une la bonne parure, doivent parer leur cœur avant de parer leur extérieur. Et je crois que l'extérieur ne doit être la conséquence que de l'intérieur, et non pas le contraire. J'aimerais vous poser une question. Je me suis posée à moi. Donc je peux me permettre de me la poser à vous, je ne vous donnerai pas ma réponse, donc vous n'avez pas à me donner la mienne, à me donner la vôtre, ni même à votre voisin. C'est juste pour vous faire réfléchir un petit peu. J'aime bien de temps en temps. Si vous deviez être habillé comme est l'état de votre cœur, mesdemoiselles, messieurs, je me transfère ça, est-ce que j'aurais le droit d'avoir une cravate, un costume, ou est-ce que je devrais venir à l'église en dong et en short? Je plaisante. Mais transposez. Comment serions-nous vêtus? Si notre intérieur était le reflet de notre... Si notre extérieur était le reflet de notre intérieur. Mais heureusement, rien n'est irrémédiable. Et Dieu fait du sur-mesure. Et il est capable de changer l'intérieur pour que, à l'extérieur, nous soyons encore plus beaux. Amen. Je crois que c'est très vrai. Mon frère, ma sœur, si tu te sens nu à l'extérieur, et l'apôtre Paul le développera ensuite dans son chapitre 5, n'ont pas vocation à rester nu, mais nous avons vocation, au contraire, eh bien, à être habillés de ce vêtement de justice, à être ornés de ce vêtement de fin lin. Nous avons vocation, et c'est la possibilité, nous sommes capables, véritablement, eh bien, de vivre quelque chose de plein, d'entier avec le Seigneur. Il est capable de changer notre intérieur afin que notre extérieur change. Comme j'aime à le dire, un meilleur chrétien deviendra un meilleur mari. Et un meilleur chrétien deviendra un meilleur parent ou deviendra un meilleur enfant. Que le Seigneur nous aide et nous fasse du bien. Nous portons en nous un trésor. Nous le portons en nous. C'est à l'intérieur. En nous, il y a le Saint-Esprit. En nous, il y a une histoire avec Jésus. Il y a quelque chose avec Jésus. En nous, il y a un potentiel de changement. Il y a un potentiel de transformation. Jésus a déposé par les saints, par son esprit, un fruit. La patience, la douceur, toutes ces choses-là sont en germe en nous. On croit ça? Tu peux être plus patient. Il y en a une qui le croit. Plus doux. Plus maître de nous-mêmes. Nous avons ce potentiel de changement. Et la question que je me suis posée, c'est de se dire, mais pourquoi alors est-ce que nous fermons si souvent nos vies? Alors que on en a tellement de belles choses à ouvrir. Tellement de belles choses à donner. Tellement de belles choses à communiquer. Pourquoi fermons-nous nos vies? Pourquoi n'ouvrons-nous pas les fenêtres, les rideaux, afin que les gens de l'extérieur puissent s'arrêter à la fenêtre et dire « Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Waouh, c'est chouette! C'est mieux que ce qu'on voit à l'extérieur d'ailleurs. Ça sonne plus juste. » En nous, il y a des choses. Il y a un trésor. En toi, mon frère, ma sœur, il y a un trésor. Il y a des choses que Jésus a mis. Il y a des choses que ton Dieu a mis. Il y a un potentiel. Il y a de belles choses. Crois-le. Et vivons dans cette optique-là. Et non pas dans l'optique de dire, bon, je suis qu'un vase de terre, moi. Oui, tu es un vase de terre, je suis un vase de terre. Mais avec quelque chose d'important à l'extérieur. Alors, en conclusion, avant, il y avait deux parties encore, mais... On s'aperçoit que toute la force de l'évangile vient d'un contraste. C'est ce que dira l'apôtre Paul dans le verset qui nous a arrêtés. Il dira que si ce trésor a été déposé dans les vases de terre, c'est pour que toute la gloire en soit rendue à Dieu. Il nous connaît bien notre Créateur. Hein. C'est bien que si nous étions revêtus d'habits de lumière, n'aurait tendance à s'approprier ce que Dieu nous a donné. C'est vrai, hein ? On est tous fait pareil. Alors, eh bien, on est dans des corps fragiles, dans des corps corruptibles, pour être plus théologique. Corruptibles dans notre corps, dans notre santé, mais corruptibles dans notre cœur, capables de tomber. Et me dit que si l'apôtre Pierre n'avait pas renié Jésus, aurait-il pu être l'homme de Dieu qui est devenu ? Si l'apôtre Pierre n'avait pas eu cette, l'apôtre Paul, pardon, n'avait pas eu cette écharpe dans sa chair, aurait-il été l'homme de Dieu qu'il a été ? S'il n'est pas fait mention de péché. Mais on est dans des corps de chair. On est des vases de terre. Acceptons-le. Mais acceptons surtout qu'au travers de nos afflictions, comme Paul le dira dans la seconde aux Corinthiens, chapitre 1er, au verset 3, eh bien, au travers des afflictions que nous pouvons avoir, au travers eh bien, des tristesses que nous pouvons avoir, eh bien, nous consolerons à notre tour les autres et nous apporterons la lumière. Nous apporterons la lumière. Que le Seigneur puisse nous aider et faire en sorte que nous puissions cultiver ce contraste et non pas le gommer. Notre force vient de notre différence. Et notre force ne vient pas du fait que nous sommes conformes, que nous sommes identiques, mais que le Seigneur puisse nous aider à vivre ainsi. Alors, ne perdons pas courage. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul le cite à la fin de son chapitre 4, et puis il va le reciter deux fois ensuite dans le chapitre 5. Ne perdons pas courage, le meilleur est devant nous. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, le fond d'abord, l'extérieur après. Que le Seigneur soit béni. Amen.